Amen. Hein? Bon, on va parler sur la puissance du rapport. Ça va? On va parler sur la puissance du rapport. J'aimerais que vous soyez très, très, très attentif pour écouter cet enseignement. C'est un enseignement tellement riche et puissant. Ça va nous aider à comprendre le voyage de notre vie chrétienne vers l'éternité. Nous allons lire Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 2. Et après, on va lire le verset 17. Nombre chapitre 13, verset 1 à 2. Nombre chapitre 13, 17 jusqu'au verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est parce que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, s'ils sont ouverts ou fortifiés. Ce qu'en est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps du premier raisin. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert des cimes jusqu'au rebord, sur le chemin de Hamad. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Amiaman, Shekai et Talmaï, enfants de Danak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Shoah en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Shkor, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils portèrent 2 au moyen d'une perche. Et il prit aussi des grenades et des figuiers. On donna à ces lieux le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Et ils firent des retours d'exploration du pays au bout de 40 jours. Amen. Ici, bien aimé, j'aimerais vraiment toucher sur le point de la maturité finale, de vous repositionner par rapport là où Dieu nous amène. Vous devez savoir, votre voyage vers l'éternité a été commencé le jour où vous avez engagé, accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est de là que votre voyage a été commencé. Mais ce voyage est bâti de principes. Parce que Dieu a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Donc, le besoin de Dieu, ce n'est pas le commencement, mais le besoin de Dieu, c'est la fin. Comprenez ? C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur va dire c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin? Cela montre que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile. Si on vous dit de persévérer, on te dit va, mais persévérer, cela veut dire la personne qui te donne l'indication d'emprunter ce chemin, il connaît toutes les tracasseries qui se trouvent dans ce chemin. Il connaît toutes les difficultés qui se trouvent dans le chemin, mais il sait à la fin, il y a le bonheur, à la fin, il y a la gloire. Il t'encourage et te dit persévérer. La Bible déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Parce que vous devez savoir, notre vie chrétienne est bâtie avec la promesse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur avait dit, vers le dernier temps, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de secousses, il y aura beaucoup de tremblements de terre, il y aura beaucoup de calamités, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et pendant notre voyage de la vie chrétienne, nous rencontrons toutes ces choses. Nous voyons toutes ces choses. Lorsqu'on voit le tremblement de la terre qui s'est passé au Japon, lorsqu'on voit l'écroulement des boues au Brésil, lorsqu'on voit tant de choses qui se passent dans le monde, on voit il y a des systèmes politiques qui sont frappés, on voit ce qui se passe en Assyrie. On voit aujourd'hui le président Kadhafi, il est attaqué avec des raisons qui sont floues. Lorsqu'on regarde le président Bagbo qui est arrêté, mis en prison sans des raisons qui sont valables. Donc on voit, il y a des choses qui se passent vraiment dans le monde. Quoi. Et dans notre voyage vers l'éternité, nous sommes confrontés de toutes ces choses. Lorsqu'on voit, il y a la crise économique, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et notre voyage vers l'éternité est confronté avec toutes ces choses. C'est pour cela que le Seigneur dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc notre problème étant les enfants de Dieu, nous devons maintenant bâtir le système qui nous permettra de persévérer jusqu'à la fin. Parce que bien aimé, si dans ta vie chrétienne tu ne bâtis pas de système qui va te sécuriser à persévérer jusqu'à la fin, tu vas tomber. Parce que tu ne peux jamais être persévérant si tu ne bâtis pas de système qui va te sécuriser à être persévérant. Beaucoup de gens tombent dans la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas bâti le système qui les rend fort de persévérer lorsque les tentations se présentent. Le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte. La destination c'était les Canaan. Mais le Seigneur a dit, vous allez passer par le désert. On connaît tous le désert. Dans le désert, il n'y a pas le champ. Dans le désert, il n'y a pas des eaux. Dans le désert, il n'y a pas le McDo. Dans le désert, il n'y a pas Aldi. Vous comprenez? Dans le désert, il n'y a rien. Le Seigneur a dit, vous allez passer par le désert. Donc on comprend déjà, quand on regarde la philosophie des dieux, on comprend que le voyage ne sera pas facile. Parce qu'on sait que dans le désert, pendant la journée il fait chaud, pendant la nuit il fait froid. Vous comprenez? Mais, lorsque le Seigneur disait que vous allez passer par le désert, je crois, Josué et Caleb, ils avaient traqué la puissance de ces mots. Parce que c'est dans le désert que nous allons arriver au Canaan. Comprenez? Donc le désert est le moyen par lequel nous devons passer pour arriver au Canaan. Donc cela veut dire, Josué et Caleb, ils avaient développé la capacité de voir au-delà du désert quelle est la provision que Dieu avait mis en disposition pour amener le peuple vers la terre promise. Comprenez? Et cela s'est manifesté dans le désert. Quand le peuple avait soif, Dieu a donné des eaux. Quand le peuple a manqué la nourriture, Dieu a donné la nourriture. Donc tout a été préparé, prédestiné par Dieu. Parce que les conditions prophétiques que nous voyons n'est pas visible, mais il est invisible. Et la Bible déclare, le peuple Israël arrivé à un certain moment, Moïse étant un homme remarquable. Non, quand je lis Moïse, je comprends que non, ça, c'est ce type, il était remarquable. Il avait deux dimensions à lui. La dimension prophétique, cela veut dire de voir dans la pensée de Dieu. Le modèle, l'architecture, et d'utiliser la dimension apostolique pour la mener à la réalité. Parce que la dimension prophétique est sur le monde invisible. invisible. Mais la dimension apostolique, c'est de voir ce qui est dans l'invisible et de la mener à la manifestation dans le monde visible. Comprenez? Et la Bible déclare, Dieu va se révéler à Moïse. Dieu a dit à Moïse, vous voyagez, c'est bon. Mais j'aimerais que vous puissiez atteindre déjà le Canaan avant votre voyage. Comprenez? J'aimerais que vous puissiez atteindre le Canaan. Cela veut dire de voir ma volonté et de l'amener dans votre voyage. Et Dieu a dit à Moïse, choisissez parmi les tribus. Choisissez parmi les enfants d'Israël. Tu leur enverras dans le pays du Canaan pour aller explorer le Canaan. Cela veut dire pour aller découvrir le Canaan. Vous comprenez? Envoie le peuple pour aller explorer le Canaan. Découvrir le Canaan. Et la Bible déclare, cela était ainsi. Lorsque chaque tribu ont allé voir le Canaan, Dieu a dit ceci. Vous allez regarder si le pays est fort ou faible. Si le pays est grand ou petit. Alléluia. Si le pays est bon ou mauvais. Et Dieu a donné des détails. Si le pays est maigre ou gras. Mais ce qui est important, Dieu a dit, ayez bon courage, prenez du fruit du pays. C'est le temps de première réserve. Ayez un bon courage. Explorez le pays. Écoutez, bien-aimé, le jour où tu avais accepté Jésus, tu étais engagé pour pousser le but de Dieu vers de l'avant. Tu étais engagé à explorer les pays, à explorer l'éternité, à explorer le royaume pendant que tu es dans le voyage. Alléluia. Pendant que tu es dans le voyage. Et la Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont vu le pays et ils ont coupé les raisins. Et ils ont mangé les raisins. Ils ont vu le pays. Ils ont exploré le pays. Et ils ont mangé les raisins. Mais le problème n'était pas limité à voir, à manger les raisins. Mais le problème était de donner les rapports. Parce que chacun de nous ici, tu rendras les rapports de la manière tu as exploré l'environnement ou la juridiction que Dieu t'avait placée. Amen. Maintenant, on va comprendre maintenant la puissance du rapport. Lisons Nombre chapitre 13, verset 26 jusqu'au verset 33. Nombre chapitre 13, verset 26 jusqu'au verset 33. Nous lisons la parole du Seigneur. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh dans le désert des Paran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici le fruit. Mais le peuple qui habitait ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées d'un grand nombre. Nous y avons vu des enfants de Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens. Égyptien, le Jébusien, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est fort, il est plus fort que nous. Ils crièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avions parcouru pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux qui nous avions vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avions vu le géant, enfant d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et l'air et au l'air comme des sauterelles. Vous comprenez? Ils ont allé explorer le pays. Ils ont vu le pays. Mais la différence était bâtie sur le rapport. Ta vie chrétienne est bâtie sur les rapports que tu donnes. La stabilité et l'équilibre de ta vie chrétienne dépend du rapport. Parce que vous devez savoir, le monde est secoué. Il y a la crise partout. Mais quel est le rapport que ta foi présente? C'est là où il y a les problèmes. Parce que la Bible déclare, lorsqu'ils ont arrivé près de Moïse, ils ont donné les rapports. La Bible dit que là, voici ce qu'ils ont rencontré à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où coule le lait. Pardon. Nous sommes allés dans le pays où tu nous avais envoyé, n'est-ce pas? À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En la vérité. Cela veut dire ce que Dieu avait dit était vrai. Comprenez? Ce que Dieu avait dit était vrai. Je vous donnerai le pays qui coule le lait et le miel. Cela était vrai. Ils ont confirmé ça. Comprenez? Ils ont confirmé ça. Parce que le voyage était bâti à travers ces rapports. Nous avions vu le pays. C'est la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Voilà même les preuves qui montrent. C'est un pays merveilleux. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Voilà même le raisin. Alléluia. Mais le problème n'était pas limité là. Ils ont commencé à donner les rapports. Ils ont dit, mais les gens qui habitent ce pays sont un peuple puissant. Les villes sont fortifiées. Et la ville est très grande. Nous avions vu les enfants de Anak. Les enfants de Anak, ce sont des géants. Ce sont des gens qui ont des tailles plus que même Goliath. Et ce sont des gens qui habitaient ces pays-là où coulait le lait et le miel. Vous comprenez bien, aimé? La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile. Dieu te donne la promesse que tu dois hériter le royaume. Mais il te faut la maturité. Parce que pour atteindre la finalité, dans ta finalité, il faut savoir qu'il y a des enfants de Anak. Il y a des géants que tu dois terrasser pour posséder le Canaan. Vous comprenez? Et tout maintenant dépend de la vision que tu as du rapport. Ils ont montré la vérité. Ils ont montré le fruit. Mais ils étaient incapables de comprendre cette vérité dans leur vie. de comprendre cette vérité dans leur vie. Il y avait une séparation entre la vérité et leur vie. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent que nous avons la promesse, nous avons la vérité, nous avons la connaissance, mais cette connaissance-là est séparée avec la réalité de leur vie chrétienne. C'est pour cela, dès que la crise arrive, dès que la situation arrive, les gens se séparent avec la réalité du royaume, avec la vérité du royaume. Ils ont dit, voilà le fruit, voilà le raisin. Nous avions vu le pays qui coule le miel. Mais le problème, le pays est plus puissant. Il y a des enfants d'Anak, il y a des géants. Alléluia. Mais c'est là le problème que nous avions ici dans ce monde. Dieu a donné à l'église l'autorité de gouverner et de régner. L'église possède la promesse et la vérité, mais l'église n'arrive pas à émerger à cause de la vision de l'église est braquée vers le monde. Nos foi est liée avec les réalités du monde. Nos foi est confrontée avec les géants. Or, si ta vie chrétienne est confrontée avec les géants, il est difficile en toi que tu puisses atteindre la finalité. Vous comprenez? C'est pour cela, bien aimé, ta vie chrétienne ne peut pas battre avec des réalités, avec des crises, avec des choses qui se passent dans le monde. Sinon, il te sera difficile d'entrer dans le royaume. Il sera difficile à toi de teindre la maturité. Ils ont donné un bon, ils ont dit nous ayons vu et le pays, nous ayons mangé les fruits, mais ils étaient immatures. Il n'y avait pas la maturité, bien aimé. C'est ça le problème, bien aimé. C'est ça les difficultés, bien aimé. Or, les rapports dépendaient pour motiver le peuple pour aller dans le pays. Mais ils ont commencé à donner les rapports. Ils ont dit, nous avions vu les enfants des Anak, les Amalécites, les Éthiopiens, les Jébusiens, les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Nous avions vu des géants. Alléluia. Lorsqu'ils ont donné les rapports, moi je crois, la foi, peut-être des plaisirs, était découragée. Ils ont détruit la foi des autres à travers les rapports. Mais Caleb doit se lever. Caleb a dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Parce que le problème, pendant qu'il y a des chaos, pendant qu'il y a des choses qui se passent, pendant qu'il y a la crise, nous devons nous élever. L'église doit s'élever. Parce que l'église doit amener le but de Dieu vers de l'accomplissement, quelles que soient les réalités que le monde est en train de traverser. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas refuser de dire quelque chose parce qu'il y a des fils de Anak, parce qu'il y a des géants. Tu dois te lever comme Caleb. Parce que vous devez savoir, dans cet enseignement, si traquer la maturité finale, je vous avais dit, Job s'éleva, n'est-ce pas? Pendant qu'il y avait le chaos, pendant que sa femme voyait le chaos, ses amis voyaient le chaos, Job a perdu ses enfants, son entreprise, tout ce qu'il avait, mais Job s'éleva. Alléluia. Job se leva. Parce que la femme de Job aussi a donné les rapports. Voilà, tout est dans les chaos. Maudit Dieu est mère. Mais Job se leva. Alléluia. Caleb se leva. L'église, tu dois t'élever. Nous devons nous élever. Nous ne devons pas permettre que ce qui se passe dans le monde pour définir notre voyage. Ta vie chrétienne n'est pas conditionnée avec la réalité de la terre. Mais ta vie chrétienne dit la vérité, je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Et Dieu te quitte aussi, te donne aussi la force de terrasser les canards et le géant. Je crois bien aimé dans ton voyage. Je crois que j'ai la capacité de vaincre l'adultère, de vaincre l'impudicité, de vaincre les mensonges, de vaincre les désirs de la chair. J'ai la capacité. Alléluia. Parce que j'ai vu le royaume. Le royaume est promis pour moi. Le royaume est pour moi. J'ai déjà mangé le fruit. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Il est amour. Je déclare la parole comme Caleb. Montons. Nous y serons vainqueurs. Comprenez? Nous y serons vainqueurs. C'est ça le problème. Alléluia. Ma foi ne peut pas être tombée à l'amour. Car ma foi n'est pas bâtie sur le matériel. Mais ma foi est bâtie sur la finalité. Alléluia. Je vous dis, s'il y a des églises qui vous donnent les rapports, comme ces gens m'ont donné les rapports, mais moi je vous donne les rapports de Caleb. Qui dit, lèvons-nous, montons et prions, car nous y serons vainqueurs. L'église sera victorieuse que le monde est dans le chaos. Nous devons croire. Alléluia. Et si tu arrives dans ces fois-là, dans cette dimension-là, même ta chair va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Vous comprenez? Et c'est à cette dimension-là que Dieu veut nous amener. Vous savez, dans la vie chrétienne, on ne sait pas si je dois rester ou tomber. Il y a des gens qui essayent dans la vie chrétienne. Bon, j'essaie d'abord de faire un pas. Si je dois peut-être un jour je dois tomber. Amen. Tu es en doute de ton voyage. Tu es en doute même de ta vie chrétienne. Est-ce que je dois résister moi? Ce n'était pas la position de Caleb. Comprenez? Ce n'était pas la position de Caleb. Verset 7. Et parler ainsi à toutes les assemblées d'Israël. Pardon, verset 31. Pardon. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Nous ne pouvons plus monter contre ces peuples, ils sont plus forts que nous. Ils ont exploré le pays, hein. Ils ont dit, son peuple est plus fou, ils sont plus forts que nous. Or, leur voyage dépendait du rapport. Combien souvent on dit, non, ah, ce problème est plus fort que moi. Ah, ce problème est plus fort que toi. Ça va te dominer? Oui. Hein, Fabrice? Les gens souvent disent ça. Ces problèmes sont plus forts que moi. Ah, les problèmes aussi vont rester plus forts que toi. Amen. Ces peuples sont plus forts que nous. Ils ont déclaré ça, ils ont dit ça. Ils crièrent devant les enfants d'Israël. Les pays qu'ils avaient explorés, ils disent, le pays que nous avions parcouru pour explorer, c'est un pays qui dévore ses enfants et tous ceux qui avons vu sont des hommes de haute taille. Voilà les paroles, voilà les messages qu'ils ont donné. Un message de décourager les gens. Un message de détruire la foi des gens. Comprenez? Ils ont détruit la foi des gens. Au lieu d'encourager les gens, de bâtir les gens, ils ont détruit. Et nous avions vu les géants, enfants de Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Comprenez? Quel rapport? Ils ont oublié que celui qui avait de la promesse est puissant, n'est-ce pas? Ils avaient oublié que Dieu est le Tout-Puissant. Ils ont oublié tous les exploits que Dieu leur a fait donner dans le chemin. Parce que Dieu a divisé la mer rouge, n'est-ce pas? Dieu a donné la manne, n'est-ce pas? Ils ont oublié toutes ces choses-là. Il a dit, moi vraiment, quand je me présente devant les fils d'Anak, je suis comme un sauterelle. Donc cela veut dire, il veut m'écraser, c'est pas comme ça. Combien de fois vous vous laissez écraser par les diables? Moi vraiment, devant cette personne, je suis vraiment, je suis rien moi. Tu es rien. Il va t'écraser. Vous comprenez? Dans d'autres sens, en déclarant, en donnant cette telle déclaration, ils ont déjà avorté leur salut, n'est-ce pas? Chaque fois que nous disons de telles paroles, nous avortons notre salut, nous perdons notre salut. Et beaucoup de gens ont déjà perdu leur salut sans le savoir. Oui, beaucoup de gens ont perdu leur salut sans le savoir. Bien, mais c'est pour cela, moi, je dis chaque fois, je vais rester fort. Je dois déclarer des paroles, parce qu'en déclarant des paroles, je conserve mon salut. Parce que le salut ne se limite pas en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le salut, c'est un voyage. Le salut, c'est une déclaration. Le salut, c'est la déclaration de la conviction de la vérité que tu déclares. C'est ça le salut. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans l'église, ils ont déjà perdu leur salut sans le savoir. Vous comprenez? Ils ont déjà perdu leur salut sans le savoir qu'ils ont déjà perdu le salut. Je suis chrétien. Pose la question, tu es chrétien par rapport à quoi? Quelle est les valeurs qui prouvent que tu es chrétien? Quelle est les valeurs que tu vis qui prouvent que tu es chrétien? Posez les gens la question comme ça. Pose les gens la question. Amen. C'est là où il y a un problème. Mais on va écouter un homme, toujours Joseph, pardon, Caleb et Josué. Écoutez maintenant, lisons Nombre chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Ils ont pleuré, le peuple a pleuré pourquoi? Hein? Le peuple a pleuré pourquoi? À cause du rapport, et le mauvais rapport que les gens ont donné de Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez? Les gens ont pleuré toute la nuit, toute la nuit. Ah, c'est fini pour nous. Ah, je crois que Dieu nous a menti. Ah, pourquoi Dieu nous a fait sauter l'Égypte? Bien-aimés, toute la nuit, les gens ont pleuré. Toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'ensemble leur dit que ne nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi on n'était pas mort dans l'Égypte? Pourquoi tu nous as menés ici? Pourquoi on va mourir ici? Qui t'a dit que tu vas mourir dans le désert? Bien-aimé, si tu n'as pas la maturité, ton passé doit toujours te rattraper devant un problème. Oui, hein? Si tu n'as pas la maturité, si tu n'as pas une foi qui n'est pas bien convaincue, liée avec la maturité, le passé doit toujours te rattraper. Ici, ils étaient tout prêts pour traverser le Jourdain. Après le Jourdain, c'était la terre promise. Mais à cause de ce problème, l'air passé les a rattrapés. Ils ont dit, Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte? Donc, ils voyageaient avec la philosophie et la mentalité des immondes. Comprenez? Donc, beaucoup de gens sont dans l'église, mais toi tu crois que ça, cette personne vraiment, il est du royaume, c'est un frère. Quand il parle la langue, oh rabachata. Toi tu dis non, ça vraiment. Mais oh, que l'Égypte est encore en lui. Vous allez savoir si l'Égypte est en lui dès que les problèmes se présentent. À ce moment-là, tu vas comprendre que non, les canards n'étaient pas dans la vie de cet homme. C'était l'Égypte. Parce que le peuple disait quoi? C'est l'Égypte, l'Égypte. Ils disaient pas les canards. Comprenez? Ils ont dit pas les royaumes, mais ils ont dit l'Égypte. C'est pour cela, bien aimé, nous devons faire couper court avec notre passé. Comprenez? C'est pour cela, bien-aimé, ne rappelle pas les gens, ne permets pas que les gens te rappellent ton passé. Et ne permets pas à ton esprit de te rappeler ton passé. Parce que si tu permets à ton passé de définir ta vie, il est difficile que tu puisses aller au Canaan. Vous comprenez? Parce que ce sont les expériences du passé qui vont toujours apporter ta bénédiction. Amen. Tu te rappelles tout le passé? Moi, si j'ai vu ces malheurs, parce que dans mon passé c'était comme ça, parce que dans mon passé c'était comme ça. Vous comprenez? Ça te fait quoi? Ça te détruit. Ça te détruit complètement. Ça te détruit complètement. Et les peuples sont rappelés, Moïse, pourquoi tu nous as pas laissé en Égypte? Amen. C'est comme une femme qui pouvait dire à son mari, ah moi quand j'étais chez mes parents, c'était bien. Pourquoi tu n'as pas laissé tes parents? Oh, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Lorsqu'on s'attache avec le Seigneur, on quitte. Donc on doit couper avec notre passé. Comprenez? On doit couper avec certaines choses. On les coupe, bien aimé. Avec certaines fonctionnements du passé, il faut qu'on les coupe, qu'on coupe ça. Les gens ont dit ça, ils ont murmuré. Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé? Où nous tomberons par l'épée? Ils ont oublié la cuisine, ils ont oublié tout. Pourquoi l'Éternel nous a fait? Pourquoi? Amen. Pourquoi le Seigneur? Moi j'ai déjà écouté les gens. Ah! Cette personne se moque de moi. Si vraiment on était dans le monde, il ne peut pas jouer de moi. Oui, les gens disent des paroles là qui sont vraiment charnelles, trop charnelles. Vous comprenez? Ils ont dit, nos enfants deviendront une proie. Ne faut-il pas mieux que nous retournions en Égypte? Hein? Ils étaient prêts à traverser la Jourdain, hein? Mais à cause des mauvais rapports, ils ont pris la décision, ils voulaient prendre la décision de retourner en Égypte. Mais les gens ne comprennent pas. Ils croient qu'en retournant en Égypte, Dieu va faire encore ce miracle, hein, de ouvrir encore la mer pour qu'ils traversent, pour qu'ils rentrent encore en Égypte. Amen. Ils ont même oublié que c'était dans le désert. Vous comprenez? Ah, moi je vais rentrer dans le monde, bien aimé. Toi tu crois que Dieu va faciliter encore ton chemin pour que tu rentres dans le monde? Dieu va le faciliter? Dieu ne va pas te faciliter. Tu rentres encore, les choses seront encore tenir. Vous comprenez? Tu rentres encore, les choses seront plus dures. Nous sommes engagés dans un voyage non-retour. Vous comprenez? Parce qu'il y a une alliance qui nous unit. Ma relation est avec ma femme, c'est une relation non-retour. Ta relation entre vous et moi, c'est une relation non-retour. Nous sommes engagés tous ici pour amener le but de Dieu vers de l'avant. Comprenez? Comprenez? Il peut y avoir certaines incompréhensions, mais nous allons les régler à cause que les canettes tout près. Si un frère te dit non, moi je vais retourner, gifle le paix. Dis, réveille-toi. Hein? Notre voyage, c'est un voyage non-retour. Tu vas aller retourner en Égypte, pourquoi? Mais si le jour où tu vas prendre la décision que tu retournes en Égypte, on va te lier des cordes comme ça. On te met là pour que tu restes. Amen. Le verset 4. Ils se dirent l'un et l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Et ces gens sont courageux, hein? Vous comprenez? Nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ont oublié comme leur chef, et les vaudors, et les gens qui étaient là, la terre avait été ouverte, ils étaient tous engloutis. Maintenant, ils veulent faire encore nommer un chef. Ils ont oublié que Dieu était leur chef. Pour qu'ils retournent où aller, nommons un chef et retournons. Mais est-ce que vous commencez, est-ce que vous sentez un peu, est-ce que vous entrez dans cette parole? Vous savez, dans la vie, certains gens ont déjà nommé leurs chefs dans leur vie sans les avoir. Hein? Que leur chef n'est plus Dieu. Ils ont déjà nommé un chef qui les dirige, qui les conduit vraiment toujours en enfer. Amen. Pourquoi? Parce que si quelque chose te connaît à l'affaire, cela veut dire que tu n'as plus le pouvoir de dominer ces choses, n'est-ce pas? Ces choses-là qui sont devenues ton chef, n'est-ce pas? Il te dirige. Quand certaines choses te dirigent en dehors de Dieu, la chose devient ton chef. C'est que tu as déjà nommé un chef. Nommons un chef et retournons en Égypte. C'est pour cela qu'on a besoin de maturité. Ah, pauvre Moïse, riche Moïse. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de tous les peuples réunis, les enfants d'Israël. Moïse m'est tombé par terre. Bien aimé, moi je ne veux pas voir la tête de Moïse. Amen. Vous savez, il y a des gens qui conduisent chaque fois les leaders dans la prière. Hein, tellement qu'il y a tellement de confusion, les leaders, il y a même mal à la tête. Tu peux aller faire une gêne là qui n'était pas prévue dans ton calendrier, même dans le calendrier de Dieu. Moïse est tombé par terre. Mais écoutez, parmi ceux qui avaient exploré le pays, dis avec moi, parmi ceux qui avaient exploré le pays, répète-moi, encore plus fort.
Parmi ceux qui avaient exploré le pays,
encore plus fort.
Parmi ceux qui avaient exploré le pays,
il y avait Josué, fils de Nun, et Caleb. Comprenez? N'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
De l'Éternel.
Hein?
De l'Éternel.
Donc il y a toujours des hommes exceptionnels. Il y a toujours des personnes exceptionnelles. Josué et Caleb étaient des hommes, hein, exceptionnels. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, parmi ceux qui avaient exploré le pays, il y avait Josué, fils de Nim, et Caleb, fils de Jénoun. Déchirèrent leurs vêtements. Oh, déchirèrent leurs vêtements. La Bible déclare, Job a déchiré son manteau, n'est-ce pas? Ils déchirèrent leurs vêtements. Ici, déchirer les vêtements, c'est changer la dimension. C'est voir les choses comme Dieu. Alléluia. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont changé la dimension. Ils parlèrent ainsi à toutes les assemblées d'Israël. Ça, ce sont des personnes exceptionnelles, bien-aimées. Moïse a bâti, Aaron a bâti, mais Josué et Caleb font prendre la parole. Bien-aimé, il arrivera, moi votre leader, je peux être abattu, je ne sais plus quoi faire devant la situation, mais il faut parmi nous qu'il y ait des Josué et des Caleb, qui peut changer la situation, qui peut amener le peuple de Dieu dans la vision de leur leader. C'est ça que c'est que Josué et Caleb ont fait. Ils ont pris la parole. Ils parlèrent devant toute l'assemblée d'ailleurs. Le pays que nous avions parcouru pour explorer, c'est un pays très bon, excellent. Comprenez? Le pays qu'on avait exploré, c'est un pays bon, excellent. Oh, j'aime. Parce que Job a dit, mon rédempteur se lèvera les. Dieu est devant une situation, il se lève toujours le dernier. Ils étaient les premiers, ils étaient vite à donner les rapports. Mais Dieu va s'élever les derniers à travers Caleb et Josué. Ils ont dit, le pays qu'on avait parcouru, c'est un pays bon et excellent. Bien aimé, je vous dis, la vie chrétienne, le royaume, l'église, que Dieu est en train de travailler, de réformer, de transformer aujourd'hui, c'est une église bon et excellent. Alléluia. Moi, j'ai déjà exploré les pays. J'ai déjà vu les pays. Comprenez? J'ai déjà exploré les pays. Amen. C'est comme dans mon mariage. Moi, j'ai déjà exploré mon mariage. J'ai dit que le mariage, c'est bon. Si quelqu'un d'autre veut te dire, non, le mariage, c'est mauvais, tout ça. Mais moi, je te dirais, le mariage, c'est bon. Amen. Parce que quand on se dit, ah, le mariage, c'est mauvais, le mariage. Moi, je te dis, oh, bien, je dis, bien, moi, j'ai déjà exploré. Le mariage, c'est bon. Amen. Ils ont dit, c'est un pays bon et excellent. Ils ont commencé maintenant à donner les rapports. Vous savez, c'est deux visions différentes, n'est-ce pas? C'est deux visions différentes. Et Josué Caleb a dit, c'est un pays bon et excellent. L'Éternel nous est favorable. Il nous ramènera dans ce pays et il nous les donnera. Il nous les ramènera dans ce pays et il nous les donnera. Comprenez? Écoutez, c'est puissant. Caleb et Josué, ils avaient déjà foulé leurs pieds au Cana. Après, ils ont retourné dans le voyage. C'est pour cela, lorsque tu as accepté Jésus, il y a un transport qui a été fait. Dieu t'a transporté du royaume, du ténèbre au royaume de la lumière, n'est-ce pas? Tu as vu la lumière et tu commences maintenant à opérer, je peux dire aussi dans les ténèbres, dans le monde, n'est-ce pas? Parce que le monde, c'est les ténèbres. Or, nous avions déjà vu la lumière. Et on a la foi et la détermination que Dieu nous ramènera encore dans cette lumière, dans cette gloire. Vous comprenez? C'est très important. Il a dit, ils ont dit quelque chose de vrai. L'Éternel nous est favorable. Il nous amènera dans ce pays. Il nous la donnera. C'est un pays qui coule le lait et le miel. Hein? C'est un pays qui coule le lait et le miel. C'est un pays bon, excellent. Vous comprenez, bien aimé? C'est un pays bon, excellent. C'est pour cela, bien aimé, moi, je suis tellement confiant. Vous savez? Je n'ai pas besoin de voir une grande église qui soit connue de tout le monde. Mais j'ai besoin de bâtir une église de qualité pour que cette église soit reconnue auprès de Dieu. Je crois que bientôt Dieu nous donnera la croissance numérique. Je crois qu'il y aura une foule incroyable qui viendra dans ces lieux. Mais on veut rendre ces gens, les gens de qualité comme l'église primitive l'a fait. Comprenez? Les gens qui ont des valeurs et des principes. Les gens qui représentent Dieu correctement. Les gens qui ont la vision d'arriver à la fin. Comprenez? L'Éternel nous est favorable. Bien, écoutez-moi. Moi, je l'ai dit ici. L'Éternel nous est favorable. Ici, l'Éternel nous est favorable. L'Éternel nous est favorable. L'Éternel nous est favorable. Verset 9. Seulement, ne soyez point des rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les crains point. Comprenez? Ici, c'est quelque chose de très puissant. Ne soyez point rebelles à Dieu. Cela veut dire, gardez les valeurs que vous avez. Gardez les principes que vous avez. N'avortez pas votre voyage. Ne soyez pas rebelle à Dieu. Je l'ai dit dans mon cœur, je ne veux pas être rebelle à Dieu. Je dis à mes enfants qu'ils ne soient pas rebelles à Dieu. Je dis à mon épouse qu'ils ne soient pas rebelles à Dieu. Je dis à vous, oh, qu'on ne soit pas rebelles à Dieu. Parce que bientôt, on va atteindre les lignes de la fin. Bientôt, il y a quelque chose de gloire. Amen. Bientôt, je me sais pour ça, bien aimé, j'ai besoin qu'on reste toujours tous unis, main dans la main. Alléluia. Quand tu veux tomber, il faut que je te relève. Parce que nous voulons tous arriver là. Vous comprenez? On veut tous arriver là. Il a dit, ne soyez point rebelles à Dieu. Ne soyez point rebelles à Dieu. Et ne crains point les gens. Car ils nous serviront de partie. Qu'est-ce que Caleb a dit? Ces gens-là vont nous servir comme des ponts, n'est-ce pas? Ils vont nous servir comme les lieux de gloire, n'est-ce pas? Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Je vous ai chaque fois dit, derrière chaque une situation difficile, il y a le plan de la rédemption qui se cache derrière, n'est-ce pas? Une difficulté peut te servir la gloire. Mais cela dépend de la vision que tu as, de la chose. Vous comprenez? Tu voyages, tu continues, mais tout dépend de la vision que tu as. L'Éternel est avec nous, les grands points. Maintenant, le dernier point qu'on va lire. On va lire le dernier verset. On voit ce dernier verset et après on va clôturer. Amen. Écoutez maintenant ces versets qu'on va lire et c'est là qu'on va vraiment finir. Pour moi, c'est un verset très puissant, c'est vraiment très puissant et remarquable pour moi. On va lire Nombre chapitre, toujours 14. Lis-moi Nombre chapitre. Jonathan, tu peux lire Nombre chapitre. Nombre chapitre 14, 31 à 32. Oui.
Je lis au nom de Jésus.
Amen.
Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera reproché et portera la peine de son iniquité. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat.
Non, Nombre chapitre 14.
Non.
Nombre 14, 31 à 32. Nombre chapitre 14, 31 à 32.
Pardon. Et vos petits enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné.
Amen. Ils connaîtront le pays que les autres ont fait quoi? On négligeait, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est pour cela qu'on ne doit pas négliger la grâce que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Là où les gens négligent, c'est là où Dieu a un plan merveilleux. C'est là où Dieu veut accomplir quelque chose. Maintenant, lirons encore ces versets et c'est là où on va prier. Josué chapitre 14. Josué 14, verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis dans le nom de Jésus. Josué chapitre 14, verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent les peuples. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et en ce jour-là, Moïse gira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit il y a 40 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé. Aujourd'hui, de 90 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force quand j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donnez-moi donc ces montagnes dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouvait de Anakin et qui a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jénoun, et il lui donna Hébron. Maintenant, suis-moi maintenant très bien. Les années ont passé. Peut-être 50 ans après, Caleb doit se retrouver à où? À Cana. Comprenez? Il doit se retrouver à Cana. La Bible dit, il a dit, j'avais 40 ans lorsque le serviteur de... J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse et l'Éternel m'envoya à Cadé Bernard pour explorer le pays et je lui ai fait un rapport avec droitier de Caire. Il avait quel âge? 40 ans lorsque Moïse lui a envoyé pour aller explorer les pays. Est-ce que vous comprenez? 40 ans. Mais 50 ans après, il a gardé cette stabilité. Cet équilibre. Et il a ancré à Cana. Donc on voit monsieur, il était à son poste comme Habakkuk. On voit monsieur, il avait bâti des systèmes solides et forts qui lui avaient permis de persévérer pour entrer dans la terre promise. Est-ce que l'environnement à laquelle Caleb vivait était bon? Non. Parce que Caleb a vécu dans le milieu où il y avait des gens qui murmuraient. Où l'influence empêchait les gens de voyager vers la terre promise. Mais Caleb a bâti un environnement autour de lui qui lui avait permis de posséder, d'aller jusqu'à la terre promise. Mais ce qui m'a marqué ici, il a dit, lorsque Moïse nous avait envoyé pour aller explorer le pays, je lui fais un rapport avec droitier de cœur. Hein? Je lui fais un rapport avec droitier de qui? De cœur. Comprenez? Bien aimé, si ton cœur est mauvais, tu donneras un rapport mauvais. Si ton cœur est bon, tu donneras ce rapport bon. Il a dit, j'ai donné un bon rapport à qui? À Moïse. Parce que mon cœur était intègre. Parce que mon cœur avait de la valeur. Moïse lui a confié un travail. Il est allé faire un travail et il a amené un bon rapport. C'est pour cela, bien aimé, chaque fois Dieu vous donne une responsabilité à travers moi pour accomplir un travail. Je, comme on l'a dit le vendredi, vous devez le faire avec droitier. Parce que dès que vous présentez les rapports à moi, vous ne les présentez pas à moi, mais à Dieu. Ne m'amenez pas tes idées de dire, non, je l'ai fait selon moi. Mais fais ça selon Dieu. Fais ça selon l'architecture et modèle qui t'a été donné. Il a dit, j'ai donné un bon rapport. C'est ça ce qui va se passer le jour où on va rendre compte à Dieu. Parce qu'il était au Cana. Il donnait maintenant son rapport. Il témoignait du rapport qu'il avait donné à Moïse. Est-ce que Moïse il était encore vivant? Non, Moïse était mort. Moïse n'existait plus. C'était Josué qui dirigeait l'histoire. Il donnait son rapport. De la manière qu'il était intègre à Moïse, de la manière qu'il était intègre à Josué. C'est pour ça que bien-aimé, ne cherchez pas seulement à être intègre à moi et que tu n'es pas intègre à ton frère ou à ta sœur. Tu ne peux pas dire que non, moi je respecte seulement les pasteurs et que les autres je ne les respecte pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que Josué, Moïse n'était plus là, n'est-ce pas? C'était Josué qui était là, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas dire, bon ça va, comme pasteur n'est pas là, bon ça va. Ma sœur là, je ne peux pas le respecter. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il y avait quelque chose de très puissant qui a été bâti. Et le verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi, décourageaient le peuple qui avait monté avec lui, n'est-ce pas? Hein? Le peuple qui avait monté avec lui fait quoi? On décourageait le peuple. Quand il disait ça, lui était au Canaan. Est-ce que ces gens-là qui avaient découragé le peuple, qui avaient méprisé leur intérêt, ils étaient au Canaan? Non. Mais lui, il était là. Il avait quel âge? 90 ans. Quand Moïse lui a donné la responsabilité, il avait 40 ans. Mais 50 ans s'est ajouté, il a gardé le même valeur. Il a gardé le même valeur. Il dévoilait le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement le voie de l'Éternel. Hein? Ils ont décroché. Il a dit, mais moi, j'ai suivi pleinement le voie de l'Éternel. Il a suivi le voie de l'Éternel avec qui? Dis fort, plus fort. Il a suivi le voie de l'Éternel avec qui? Ah, répétez encore plus moi. Ils ont suivi le voie de l'Éternel avec qui? Moïse. Est-ce qu'il avait vu Dieu descendre? Bon, c'est moi Dieu, tout ça. Il a suivi les voies de l'Éternel à travers Moïse. Il était. Donc, il obéissait Dieu à travers Moïse. C'est ça qui lui avait permis d'entrer à la terre promise. C'est pour cela que je vous enseigne, c'est les voies de Dieu. Il ne faut pas dire que c'est les voies du pasteur. Lorsqu'on dit on doit venir à l'église à telle heure, on est là. Vous savez, j'aime toujours l'attitude de Franck. J'aime ça. Il a raté son train, il m'appelle. Il m'a dit, pasteur, j'ai raté le train, je suis en retard. Alléluia. Ça, c'est une meilleure attitude pour moi. Vous comprenez? Il a raté, il m'a avisé. Pourquoi? Parce que si Franck vient et qu'il n'avise pas, il brise le principe d'adoration ou le principe du gouvernement de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être que si moi je vois Franck venir en retard, mon cœur ne sera pas content et Dieu ne sera pas aussi pas content. Pourquoi? Parce que je verrai aussi comme Franck a transgressé au principe qu'on a établi. Mais quand Franck m'a appelé, il m'a laissé le message, j'ai dit gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie et le cœur de Dieu est dans la joie. C'est ça craquer les voies de Dieu à travers les leaders. Donc on commence le culte à 14h, on est là à 14h, le culte de vendredi, on est là, faire ça on fait, donner nos dîmes on donne, faire ça on fait, c'est ça traquer les voies de l'Éternel. Et il a dit, j'ai suivi ça, hein, je suis pleinement les voies de l'air, les voies de son père, les voies de son ami, les voies de l'Éternel. Amen. On est tellement influencé, quelqu'un te dit d'influencer comme ça, tu te laisses tomber, boum! Amen. Au lieu de suivre les lois, les voies de l'Éternel. Il a dit, je suis pleinement les voies de l'Éternel. Mon Dieu, en ce jour-là, Moïse jura. Qui a juré? Moïse, en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. C'est Dieu qui a dit. Qui parle ici? Qui déclare les paroles de bénédiction sur Caleb? Moïse, n'est-ce pas? Vous savez, bien aimé, lorsque tu accomplis les voies de l'Éternel, lorsque le leader déclare les paroles de bénédiction, et cela aura des effets. Les paroles que Moïse avait déclarées lorsque Caleb avait 40 ans, s'est accompli 50 ans après dans la vie de Caleb. C'est là, chaque fois que vous faisiez la joie de l'Éternel, lorsque mes paroles ont déclaré, la bénédiction automatiquement va t'influencer. C'est certain. Parce que quand moi je suis triste, Dieu aussi est triste. Quand je suis dans la joie, Dieu aussi est dans la joie. Amen. Vous souvenez un jour, quand on était dans la sainte salle, avant qu'on puisse établir le principe de l'adoration, on priait, je crois que tout le monde de la salle était tellement un peu distrait, n'est-ce pas? On disait, Dieu nous recommande, tous nous puissions nous mettre nos mains en l'air, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ces jours-là. Vous souvenez? Moi, j'ai toujours dit tous ces mémoires-là. Et pendant que je parlais avec beaucoup de sagesse, quand tout le monde a élevé leurs mains, quand tout le monde a pris cette attitude-là, il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans la salle. Je crois ce jour-là, Jonathan m'avait dit, pasteur, j'ai mal au dos. Je crois qu'il était par terre, mais j'ai dit, Jonathan, toi, te mettre debout et élever tes mains et adorer Dieu. Ah, tu te souviens ça? Et là, quand on a fait cette attitude-là, et je crois après, il n'avait plus ses douleurs. Il y a eu, j'ai vu des gens pleurer ce jour-là. Il y a eu la manifestation incroyable. Depuis qu'on a établi ce principe-là ici, chaque fois quand on prie, on sent que l'atmosphère change. Vous avez remarqué ça? Et on doit le maintenir. Le vendredi, ici, on a prié pendant 15 minutes. Je ne me trompe pas. 15 minutes seulement. Il y a eu quelque chose de très puissant qui s'est passé. 15 minutes. Mais comme si on a prié 1h30. Vous comprenez? Parce qu'on a essayé d'établir quelque chose qu'on respecte, que Dieu honore, et Dieu se manifeste. Oui?
Je suis vraiment désolé, mais je vais devoir y aller, quoi.
Je vais terminer, Franck. Attends. Donne-moi 3 minutes seulement. Donne-moi 3 minutes. Écoutez maintenant. À ce jour, Moïse, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi les voies de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit il y a 40 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque les hommes marchaient dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 90 ans. Je suis encore vigoureux. Il dit encore, à 90 ans, il dit encore, j'ai encore là, la force. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. Il a dit, j'ai encore la force comme le jour où Moïse m'envoya. Quand j'avais. Donc, la même force que j'ai en 90 ans, c'est la même force comme quand j'avais. Quel équilibre, quelle stabilité de la vie chrétienne. Écoutez, j'ai autant de force que j'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donnez-moi donc ces montagnes dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouvait des Anakin et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je chasserai comme l'Éternel a dit. Il a dit encore, donnez-moi encore ces. Je n'en entends, hein? Donnez-moi encore ces montagnes-là, n'est-ce pas? Donnez-moi encore ces Anakin-là, les géants-là, je les battrai comme si j'avais la force de 40 ans. Mais un vieux de 90 ans qui parle. Regardez-moi, Franck, si vraiment un homme est là de 90, il te dit, Franck, je dois te tabasser, te taper. S'il ne croit pas, il dit, mais c'est vas-y parce que je ne veux pas entrer dans la prison. Mais imaginez un vieux de 90, il a dit, donnez-moi encore tous ces géants-là, qui mesuraient plus que Goliath, je les battrai. Hein? Donnez-moi encore ces montagnes-là. J'aimerais que chacun de nous réfléchisse par rapport à ça. Que Dieu bénisse.